Canal Sud 92.2. Bonjour tout le monde. Eh bien, je vous remercie de vos risettes sur canalsud.net. Je vois que le flubbleub vous plaît. Mais figurez-vous, j'ai des excuses très plates à formuler parce que je me suis aperçue que non seulement j'avais laissé des scories épouvantables que j'avais par la suite corrigées, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais, bien pire, je vous ai fait sauter de grosse moitié, quasiment les deux tiers, du chapitre 5 qui s'appelait « Heureusement qu'on a gardé nos colonies ». Alors vous pensez bien qu'avec un titre pareil, j'allais pas vous en faire cadeau. Donc me revoilà. Emponnez-vous. Ça va être dur. Alors le tonton, qu'est-ce qu'il dit? Au passage, on peut remercier les nazis de n'avoir pas exterminé les Noirs et les Arabes, sans quoi on n'aurait eu personne à qui s'en prendre dans les 50 années suivantes. La classe ouvrière en aurait profité pour s'unir et renverser les structures de domination.
Plus d'État, plus de patron, plus d'autorité, plus rien. On serait probablement tous morts.
À la Libération, le gouvernement provisoire, sous l'impulsion du Conseil national de la Résistance, adopta un ensemble de mesures qui, aujourd'hui encore, forme le socle des acquis sociaux du XXe siècle. Nationalisation de l'énergie, des assurances et des banques. Création de la sécurité sociale. Retraite pour tous. Droit de vote pour les femmes. Indépendance de la presse. Ce fut un coup dur à encaisser pour le patronat. Mais en même temps, la reconquête du pouvoir fut un défi passionnant à relever pour nos dirigeants d'entreprise. Après la guerre, les associations de défense des immigrés se montraient très actives. Le Centre d'action et de défense des immigrés, le CADI, CADI, au prétexte que 50 000 travailleurs issus de l'immigration avaient participé à la libération, demanda des mesures en leur faveur. Le gouvernement provisoire répondit « Mais bien sûr, pas de problème. Tenez, reprenez donc un peu de champagne. » Et les immigrés furent gentiment reconduits à la porte. Quand on fut entre patriotes, on tomba d'accord pour réactiver les dispositifs protectionnistes des années 30 pour confirmer les petits ajouts adoptés sous Vichy et on écrivit tout ça dans les ordonnances de 1945. Et là, on voit un grand militaire avec un grand képi, avec une grande visière, que vous aurez reconnu comme étant de Gaulle, enfin du moins. Moi, c'est l'impression qu'il me fait. Et il décore à tour de bras. Et il décore donc des immigrés qui réclament aussitôt à travail égal, salaire égal, naturalisation, droit de circulation, etc. Ou qu'il n'est pas content, le De Gaulle. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il appelle un camion de CRS. Et les camions de CRS se vident, déboulent des CRS armés de bidules, et qui jouent du bidule à plus pouvoir, qui étalent par terre les immigrés décorés, et qu'est-ce qu'on voit sur la dernière vignette? Eh bien, De Gaulle, on dirait qu'il a pris les décorations des immigrés pour les épingler sur le poitrail des flics. Enfin, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais voilà, il avait la décoromanie active et il s'est mis à décorer les flics pour les coups de bidule. Depuis la libération, les communistes avaient des ministres au gouvernement. Ils avaient vaillamment résisté et on n'avait pas pu faire autrement. Or, c'était le début de la guerre froide, et les communistes commençaient à nous courir sérieusement. Il s'alignait systématiquement sur les positions des soviétiques. Il ne voulait pas voter les crédits de la guerre d'Indochine. Bref, en mai 47, Ramadier, président du Conseil, s'arrangea pour qu'il quitte le gouvernement, ce qu'il fit en claquant la porte. L'éviction des ministres communistes passa mal dans les milieux ouvriers. Ils avaient peur que ce soit le début de la fin, le signe qu'on allait toucher à leurs acquis sociaux. Alors ils entamèrent un cycle de grève qui allait durer plus de 2 ans et qui fut très suivi par les fils des travailleurs immigrés. Eux, ils avaient rien à craindre. Ils étaient naturalisés. Par contre, ils le faisaient pour des raisons personnelles. Ils avaient reçu tellement de crachats à l'école qu'ils voulaient se venger de la société tout entière. Et là, il y a une suite de vignettes que je vais vous détailler. Je craque parce que c'est trop chouette et puis ça finit trop bien. Alors, on voit devant une usine occupée, où il y a une belle banderole, usine occupée, on voit des ouvriers, ils sont visiblement de toutes les origines et nationalités. Je reconnais des Italiens sur lesquels Otto T a dessiné, je sais pas pourquoi, ma culture ne va pas jusqu'à là. Les Italiens, ils ont une espèce de ressort sur le ventre. Ça doit être un signe de dynamisme, je suppose. Alors, il y a des Italiens, il y a des gens de toutes les couleurs, et ça chante « Oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao ». Oui, ce sont sûrement des Italiens, n'est-ce pas? Bon. Alors, il y a un bandoneoniste, il y a des gens qui dansent, et ça chante, et ça rigole. Bon. Et puis, si l'usine est occupée, ben, elle est occupée tout le temps. Moralité, danseurs, chanteurs et musiciens, ils finissent par avoir faim. Et voilà la mama qui arrive avec la gamelle. Alors tout le monde est content, la mama pose sa gamelle, et elle commence à jouer de la louche. Alors elle sert les Italiens, bien sûr, et puis les autres aussi. Et puis, là-bas au fond de la cour, on voit quelqu'un qui est ligoté, et la mama demande « À Louis ?» Et un de ses fils qui répond « Il patrone !» Et la mamma « Il patrone mangia !» Et l'autre qui dit « Ma !» Et voilà le papa qui arrive. Il papa. Et le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il avance, il arrive en roulant un tonnelet. Un tonneau de Chianti, je suppose. Alors, tout le monde prend son verre de Chianti, et le papa, il se retourne, et il voit le patron ligoté là-bas au fond, et il demande qui c'est, lui. Eh ben lui, c'est toujours il patronne. Et comme ils sont joyeux, ils se sont remis à danser, et dans la ronde, qui est-ce qu'il y a, et qu'est-ce qui danse comme les autres? Il patronne. Mais il est quand même ligoté, hein. Mais enfin, les jambes, ça va, joie, ils dansent comme les autres. Voilà. Oui. Et en plus, il y a un chat, voyez-vous. Il leur manque rien. Dans le secteur des mines ou de la sidérurgie, on occupait les puits, on séquestrait les patrons, on avait perdu le sens commun. Le gouvernement hésita à leur envoyer une armée de psys. Finalement, il opta pour les toutes nouvelles compagnies républicaines de sécurité, qui connaissaient l'œuvre de Freud sur le bout des doigts. Mais les CRS se firent taper dessus à goût de barre à mine. Alors nous appelâmes la troupe, les mitrailleuses, les tanks, rien de tel qu'un peu d'entraînement avant de partir en Indochine. Et on voit donc la troupe qui rentre dans l'usine occupée, où on dansait et où on chantait, et on chantait « L'internationale sera le genre humain ». Les associations de défense des immigrés profitaient des conflits pour réclamer plus de droits sociaux, plus d'égalité, plus de ceci, plus de cela. Heureusement, elles furent affaiblies par des luttes intestines.
Le cadi fut dissous.
Le mouvement national contre le racisme issu de la résistance se scinda en deux camps, qui ne pouvaient pas se sentir.
Finalement, ça nous arrangeait bien. En plus de l'Indochine, nous étions au bord du soulèvement en Algérie, autant dire qu'il ne fallait pas trop nous chatouiller.
Il y avait aussi le problème des réfugiés espagnols. Ils avaient fait la guerre d'Espagne contre Franco en 36. Ils l'avaient perdue. Ils avaient traversé la frontière avant la guerre sans nous demander notre avis. Nous, on les avait accueillis dans des camps somptueux, avec de la moquette murale. Pour leur rendre service, on les avait embauchés à droite et à gauche, mais des gens aussi peu instruits, avec une conscience politique aussi aiguë, on n'avait jamais vu ça. Ils discutaient sur tout. Et pendant ce temps-là, le travail n'avançait pas.
Et voilà une suite de vignettes qui montrent l'insertion des Espagnols parmi les ouvriers français. Eh ben, le bistrotteur, ils sont en train de lui apprendre ce que c'était et ce que c'est, heureusement, que la sangria. Et son petit blanc, il le met ailleurs.
Le ministre de l'Intérieur proposa qu'on les renvoie chez eux. C'était une bonne idée, mais ça ne passerait jamais dans l'opinion publique si on ne trouvait pas un joli nom d'opération pour aller avec. La nuit suivante, le ministre ne put fermer l'œil. Son cerveau tournait en boucle. Opération Espingouin, opération Pula Paella, Hero de Puta. Le lendemain, il se trouva un peu raciste et proposa opération Bolero Paprika. Bolero pour rendre hommage à la culture hispanique et tant qu'on y était paprika, pour rendre hommage à la culture des pays de l'Est. Nous pûmes enfin raccompagner les travailleurs de tous ces pays à la frontière. Et qu'ils aient été d'anciens résistants n'étaient pas de nature à nous attendrir. Alors là, je vous raconte encore un petit peu les vignettes parce que elles sont craquantes, celles-là aussi, comme toutes les autres d'ailleurs. Alors on voit des flics qui attrapent un immigré et qui veulent le ramener probablement à la gare ou à l'aéroport ou à la frontière directe. Voilà. Et puis, donc il y a un immigré pour deux flics, entre deux flics. Et puis, ils croisent un quidam et on voit une bulle qui sort de la tête de l'immigré et qui dit « Oh là là, s'il pouvait balancer un coup de poing dans la figure du flic, je pourrais en profiter pour me sauver. » Mais non, le quidam, il pense pas du tout à ça. Alors voilà, il croise tout d'un coup un petit vieux avec sa canne. Et l'immigré rêve encore que le petit vieux balance sa canne dans les pattes du flic. Mais non, ça marche pas. Et voilà une mémère à chien-chien. Et la mémère à chien-chien, elle a au bout du bras, elle a un sac, et l'immigré rêve que la mémère donne un coup de sac au flic. Mais c'est pas ça qui se produit. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le flic qui se fit mordre. Voilà. Le chien mord le flic, et pendant ce temps-là, évidemment, l'immigré en profite pour sauter dans un buisson voisin. Et on voit le flic et son autre copain flic qu'on avait perdu de vue. On les voit les deux derrière les buissons qui cherchent et ils trouvent pas notre immigré. Et la dernière vignette, on retrouve la mémère à chien-chien, on la retrouve sur le pas de sa porte. Elle est en train d'ouvrir un colis que vient de le livrer le facteur. On voit le facteur qui sort de chez elle. Et la mémère à chien-chien, elle a ouvert son colis et devinez ce qu'il y a, ce qu'elle sort du colis. Un nonos.
Pour qui?
On disait que Franco faisait garrotter les réfugiés espagnols qu'on lui renvoyait. Pris de remords, le ministre de l'Intérieur proposa, plutôt, qu'on rouvre les camps dans lesquels on les avait accueillis en 39. Un bon coup de ménage, deux couches de peinture, ils pouvaient encore servir quelques années. En plus, ils étaient situés dans des villages touristiques où la vue est superbe, n'est-ce pas, Horace et Bédou? Oui. Il y eut des résistances en haut lieu. À cette époque, les camps n'avaient pas bonne presse. En même temps, c'était un mal pour un bien. Et puis, on n'est pas des nazis non plus, hein? On les a pas exterminés. Mais non, mais non. Et on voit un contrôleur, un surveillant, qui rentre dans les casemates et qui vient voir un peu ce qui s'y passe. Et là, il est drôlement étonné parce que il voit une Ronéo, il voit une machine à écrire, il voit une bibliothèque où on cherche des documents, et il voit une affiche qui sort de la Ronéo, une grande affiche où il y a marqué « Franco-SS ». Alors, le flic, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher de l'aide. Et quand il ramène de l'aide, eh ben, tout a changé. Les immigrés sont en train de jouer aux cartes, les mamas sont en train d'étendre le linge des enfants, ou de faire la cuisine, il y en a qui roupillent, etc., etc. Plus de Ronéo, plus de machines à écrire, plus d'affiches. Une grande question fut alors débattue dans les milieux intellectuels. Pourquoi diable était-il si difficile pour les étrangers de s'assimiler? Louis Chevalier, professeur à Sciences Po, apporta la réponse. Toutes les races ne sont pas égales, c'est dans les gènes. Alors pour certaines, l'assimilation est impossible. Les Arabes sont fatalistes et crédules, les gens du Proche-Orient trop habiles et donc feignants, les Juifs d'Europe centrale hantés par le désir d'ascension sociale. Même si c'était pas une raison pour les exterminer. Les étudiants apprirent tout ça par cœur et ils eurent 20/20. 15 ans plus tard, le même Louis Chevalier pensera les plaies de l'histoire dans ses cours au Collège de France. Jamais les Français n'ont été xénophobes, ni dans l'entre-deux-guerres, ni jamais. L'intégration des étrangers n'a jamais posé problème. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Les étudiants apprirent tout ça par cœur et ils eurent 20/20. Beaucoup devinrent journalistes, hommes politiques, et grâce à eux, nous construisîmes l'amnésie collective. Nos crachats, on ne pouvait pas les ravaler, mais les étrangers avaient eu le temps de se débarbouiller 10 fois. Maintenant, on pouvait bien profiter tous ensemble des 30 glorieuses sans culpabiliser. Et là, on voit des profiteurs des 30 glorieuses qui arrivent en coupé, en voiture décapotable, donc, et qui cornent très fort dans les oreilles de l'ouvrier immigré qui est en train d'allonger l'autoroute. Et puis, on voit encore d'autres ouvriers immigrés qui remplissent la benne du camion à ordures. Pendant que des voisins rentre chez eux une énorme armoire frigorifique. Et d'autres sortent du cinéma où on joue Casablanca, pendant que les immigrés rentrent dans la trappe des égouts. Après la guerre, il n'y eut plus tellement de candidats à l'émigration pour venir dans nos entreprises, qui avaient pourtant grand besoin de main-d'œuvre. Les Italiens, on leur proposait de meilleurs salaires en Allemagne. Les Polonais ne pouvaient plus quitter leur pays à cause des Soviétiques. En Belgique, il n'y avait plus que des gringalets. Alors on se dit qu'on pouvait bien recruter des Algériens. Après tout, ils avaient participé à la libération. Ils se contentaient d'un quignon de pain pour tout salaire. Et plus les métiers étaient pénibles, et plus ça leur plaisait. Et puis, l'Algérie, c'était la France, oui ou non? De 1946 à 1954,
le nombre d'Algériens en métropole passa de 20 000 à 210 000. Et on voit, à Alger probablement, un bateau qui va partir, une famille sur le quai, le papa qui est sur le pont, et ils se font des adieux déchirants. Et puis la vignette suivante, on retrouve le papa qui est penché sur un marteau-piqueur et il y a marqué derrière lui « Ici, bientôt, l'autoroute du Sud ». Et puis l'autoroute, il a pris forme et on voit une voiture qui passe devant cet ouvrier avec son marteau-piqueur. Et l'ouvrier, il commence à rêver de conduire lui aussi sur autoroute et d'avoir sa voiture. Alors il travaille. Alors il y a une suite de petites vignettes identiques. La seule différence entre chacune, c'est que autour de la silhouette de l'ouvrier, il y a plus ou moins de traits. Et les traits, on comprend très bien en voyant le dessin, ce que vous ne pouvez pas faire, bien entendu, mais croyez-moi sur parole, et bien les traits, quand l'ouvrier est entouré d'une série de traits, bon, déjà, il s'amuse pas. La vignette suivante, il y a deux séries de traits. La troisième, il y en a trois. La quatrième, il y en a quatre. Évidemment, ça représente les tremblements, les vibrations qui lui sont communiquées par le marteau-piqueur. Et puis, il y a une cinquième vignette où quand même il est payé. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ses sous? Eh bien, il va s'acheter la voiture de ses rêves. On le voit, il monte dans sa voiture, il tremblote, la voiture tremblote aussi, et on le voit qu'il descend du bateau à Alger. Et il retrouve sa famille, tout le monde est content. Mais il tremblote toujours. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Puisqu'il n'a pas tout dépensé, qu'est-ce qu'il veut? Il veut construire sa maison. Et on le voit. Avec des moellons, tout ça, une belle truelle, il est content, une gamate et tout. Et l'image finale, eh ben, c'est une maison, effectivement. Et puis, toute la famille lève les bras au ciel, mais on n'est pas très sûr que ce soit de joie. Parce que la maison, eh ben, les murs, ils sont tout gingouin, comme on disait dans mon Auvergne, c'est-à-dire les murs ressemblent à des escaliers parce que le papa, eh ben, il tremblait en collant ses moellons. Voilà. On était loin de se douter que tous ces Algériens serviraient d'arrière-garde à leur front de libération nationale, dit FLN. Ils envoyaient dans notre dos une partie de leur salaire au FLN, pour acheter des armes, poser des bombes, financer leur sale guerre. Quand on convoqua les responsables dans notre bureau pour leur demander pourquoi ils faisaient ça, ils nous répondirent qu'ils étaient constamment humiliés. Après le déclenchement de la guerre d'Algérie, c'est vrai que les immigrés algériens subissaient les mêmes vexations que les Juifs dans les années 30. Mais avant la guerre, franchement, on leur en avait pas fait baver tant que ça. Et l'illustration, eh bien, c'est la façon dont la presse... Oui, c'est dur à dire et surtout à penser, la façon dont la presse intervient dans les idéologies, dans les idées reçues. Et on voit sur un stand les unes des journaux, les unes de la presse de l'époque. Algérien, le problème algérien. Y a-t-il un complot algérien? Les Algériens à Paris. Les Algériens et l'argent. Qui sont vraiment les Algériens? Voilà, ça c'est les unes de la baraque de presse. Et puis en face, il y a ce qu'on appelle une colonne Maurice, hein, je sais pas, je n'ai pas rendu compte si ça s'appelle colonne Maurice à Toulouse aussi. Enfin à Paris, ça s'appelle comme ça. Vous savez, ces espèces de phares de la culture qui sont plantés donc sur les trottoirs et sur les... Ils sont là pour porter des affiches, des spectacles. Alors on voit cinéma, du Rififi à Alger, exposition, les Algériens, exposition, l'Algérie, etc., etc. On n'en sort pas. La suite, vous la connaissez. La France envoya en Algérie toute une classe d'âge.
On en a dans toutes les familles. Ils sont vieux. Ils n'en ont plus pour longtemps. On n'en parle jamais. Mais beaucoup d'entre eux ont été traumatisés par l'Algérie. C'est comme ça. Ils étaient jeunes. Ils ont vu des horreurs. Et ils ont tout gardé pour eux. Aujourd'hui, ils veulent bien admettre que les militaires français ont torturé et massacré à tour de bras, que cette guerre était dégueulasse et peut-être même injuste. Et oui, et moi, qui avais entre 12 et 15 ans à l'époque, eh ben, je me souviens de camarades, de ma sœur aînée, de voisins, qui sont revenus, et il y en a 6 qui se sont suicidés, sur une population de la région, il y avait 3 petites villes juxtaposées, ça faisait 40-45 000 habitants. 6 garçons de 20 ans qui se sont suicidés sur 45 000 habitants. Qu'est-ce que ça donne? Effectivement, ils n'ont pas dû s'amuser. Voilà, eh bien, j'en suis arrivée aux techniques diplomatiques de Gaulle et d'Adenauer. Et je crois que ça, vous pouvez le retrouver sur l'émission donc de samedi dernier. Eh bien, je vous remercie de votre indulgence. Et comme vous ne m'avez pas découragée, eh bien, je m'attaque illico à la petite histoire du Grand Texas que vous allez retrouver sur canalsud.net pour votre petit Noël. Voilà. À bientôt, amusez-vous bien.